Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 66e numéro. C'est d'ailleurs votre année de naissance, mon cher Thomas. L'hebdo de l'investissement réussi, bonjour.
La vôtre aussi également, oui. Philippe, bonjour.
Vous allez aborder quel sujet cette semaine, Thomas?
Eh bien, on va parler de l'innovation de la semaine, qui est un radiateur électrique Thermor avec diffuseur de parfum. On va recevoir ensuite Jean-Marc Rip, qui est président de la BPE, la banque privée de la Banque Postale. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadeau. Et on va faire un petit tour dans le Calvados, du côté de Caen, pour l'immobilier neuf.
Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Jacques Attali, écrivain et économiste.
TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente
Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine.
Et maintenant, vous allez nous parler du radiateur connecté Thermor Equator 4 et du diffuseur de parfum Sentis.
Oui Philippe, parce que chauffer sa maison, c'est utile, mais qu'en plus un parfum agréable flotte dans la pièce, c'est forcément mieux. Alors je vais vous parler effectivement du radiateur Thermor Equator 4 et du diffuseur de parfum connecté sur le radiateur via sa prise USB. Ce diffuseur fonctionne avec des capsules Sentis contenant des petites billes de parfum. Vous avez ainsi le choix parmi leur collection de 25 fragrances. C'est un appareil 3 en 1, radiateur, diffuseur de parfums d'ambiance, mais également un diffuseur de musique avec une enceinte cabasse qui se rajoute sur le port USB. Le radiateur Thermor Equator 4 est donc un appareil connecté qui a un double système chauffant, fonte et façade rayonnante. Il est intelligent car le radiateur se programme tout seul grâce à ses détecteurs intégrés. L'ensemble est pilotable de son smartphone, Philippe.
Et combien ça coûte, Thomas?
Eh bien, ce radiateur, en fonction de sa puissance, commence à 735 €. Le diffuseur de parfum coûte 75 € et l'enceinte cabasse autour des 150 €.
Sud Radio, Osez investir.
Notre invité cette semaine est Jean-Marc Rib, président de la BPE, la banque privée du groupe La Banque Postale.
Oui Philippe, la banque privée BPE a été créée en 1963 et est présente sur l'ensemble du territoire national avec 78 implantations dans 70 villes. La BPE est composée de 400 collaborateurs et de 63 000 clients. Bonjour Jean-Marc Rib.
Bonjour Thomas Binet.
Jean-Marc Rib, quelle année nous venons de vivre? Nous vous avions reçu au printemps dernier, lors du premier confinement. Les chiffres du chômage partiel, les entreprises en difficulté étaient très préoccupants. Depuis, le deuxième confinement est passé par là. Comment analysez-vous concrètement la situation en cette fin d'année?
Le premier semestre a été extrêmement compliqué. On a vécu un vrai confinement. Une activité économique a été extrêmement réduite. Des entreprises fermées, beaucoup de salariés en télétravail. Donc des conditions de travail un peu compliquées, il faut quand même le reconnaître. Mais je dirais qu'il y a eu quand même un peu cette sortie du premier confinement, c'est-à-dire à partir du 11 mai. Oui. Que s'est-il passé à partir du 11 mai? On s'est aperçu que la consommation est repartie. Il y avait une soif d'envie de consommer. Oui. Hein. Faut se rappeler, on était enfermés pendant 2 mois et demi, hein, donc on ne pouvait pas sortir. Vrai. Donc en fait, la consommation est repartie. Et nous avons tous cru que c'était pratiquement terminé.
Et pour autant...
Eh bien écoutez, l'été s'est plutôt bien passé et puis au mois de septembre, ben, ça a été compliqué. Parce qu'au mois de septembre, on a revécu en fait un début de deuxième vague. Hein, tout le monde parlait de cette deuxième vague qui est arrivée un petit peu plus tard, hein, qui est arrivée vers la mi-octobre. Voilà. Et l'activité s'est recontractée à nouveau.
Alors au niveau de l'activité justement, vous en retirez quelles conclusions?
Alors... Je crois qu'il faut, il faut différencier en fonction des secteurs d'activité. Vous avez des secteurs qui sont réellement touchés. Je pense au tourisme, à l'hôtellerie, à l'aéronautique. Mais nous avons des secteurs qui fonctionnent bien, la santé, certaines hautes technologies. Donc nous avons en fait des secteurs où nous avons pu investir et nous l'avons vu d'ailleurs sur les marchés boursiers.
Alors comment voyez-vous évoluer les chocs d'offres du premier semestre par rapport à une production stoppée ou en partie stoppée? Le choc de la demande par une impossibilité d'acheter, vous l'évoquiez un instant, donc de consommer, comment ça se passe justement tout ça?
Alors écoutez, bah, comment ça se passe? En réalité, il y a beaucoup d'épargne. Il y a beaucoup d'épargne parce que quand vous ne pouvez pas consommer, bah, vous épargnez. Alors beaucoup de salariés ont pu épargner en fait puisqu'ils ne pouvaient pas consommer. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Et nous, en tant que banquiers, nous le voyons actuellement donc chez BPE, hein, la Banque Privée de la Banque Postale, que j'ai la chance de présider. Si vous voulez, on n'a jamais eu un taux d'épargne mais aussi élevé. D'accord. C'est-à-dire que, alors pour moi, ce taux d'épargne, en fait, cette épargne est un réservoir de consommation. C'est-à-dire que quand nous allons sortir de cette crise, alors bien malin aujourd'hui pour dire oui, quand, clair. Bien évidemment, mais il y aura cette envie de consommer.
Vous voulez dire par là qu'à partir du moment où on va sortir de ces vagues, alors on ne peut pas savoir deuxième ou troisième, mais vous pensez que la consommation va repartir très fort, comme d'ailleurs après le 11 mai ?
C'est ça votre analyse ? J'en suis persuadé. Alors, elle va repartir, mais tout va dépendre des secteurs d'activité. Elle va repartir, par exemple, dans tout ce qui est tourisme. Les Français, par exemple, vont vouloir partir à l'étranger, vont vouloir voyager. La restauration, dès que les restaurants vont pouvoir ouvrir. En revanche, ça va être beaucoup plus compliqué pour des secteurs. Bon, l'aéronautique va prendre quand même pas mal de temps avant de redémarrer, bien évidemment. Mais il va y avoir des secteurs, par exemple, le prêt-à-porter va être plus compliqué. Parce qu'on risque d'avoir un changement de comportement aussi des ménages.
Alors, vous parlez de l'épargne de précaution, c'est de l'épargne de précaution que vous évoquez.
Alors, c'est pas que de l'épargne de précaution. D'accord. Vous avez une partie des Français qui a besoin d'épargner. Et là, effectivement, c'est de l'épargne de précaution, parce que on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Peut-être que leurs entreprises vont fermer, vont licencier. Donc là, c'est vraiment la peur. C'est une épargne presque de peur. Et puis, vous avez une épargne qui est prête à être consommée parce que des salariés, aujourd'hui, ont leur emploi, n'ont pas de risque de perdre leur emploi demain, sont payés tous les mois. Et donc, épargnent, mais parce qu'ils sont obligés d'épargner.
Alors, comment on fait pour épargner aujourd'hui intelligemment ?
Alors, écoutez, je crois que j'ai envie de dire un peu comme avant. C'est la diversification de l'épargne. C'est-à-dire que la diversification de l'épargne, ça va être de dire, bah écoutez, on a vu, il y a eu un regain du marché des actions. Nous avons beaucoup d'épargne bancaire. Alors l'épargne bancaire, je précise pour les auditeurs, c'est tout ce qui est sur les comptes courants, les comptes chèques, et puis l'épargne sur les livrets. Voilà, qui rapporte rien, presque rien sur l'épargne livrée et rien du tout sur les comptes chèques. Et ça, c'est un réservoir puissant pour réallouer ces actifs vers des actifs financiers. Nous avons eu également le marché des actions, avec une grosse volatilité sur le marché des actions, mais les Français sont revenus quand même, on l'a vu ces derniers mois, sur le marché des actions. Donc des investissements, ils ont profité des points d'entrée et des points de sortie par rapport au niveau du CAC 40. Et puis, il y a l'immobilier. Il y a eu beaucoup d'investissements dans l'immobilier. Alors, dans l'immobilier, je vous rappelle, j'étais sur votre antenne en avril dernier. À l'époque, on se posait la question, les SCPI, et beaucoup de Cassandre d'ailleurs pensaient que les SCPI allaient s'effondrer. Et pas du tout. Les SCPI diversifiés ont plutôt bien tenu aujourd'hui, même si on peut s'attendre à ce que des taux de rendement des SCPI passent de 4,5 à 5 à 2 ou 2,5, c'est déjà beaucoup par rapport à un livret A qui rapporte 0,5.
Alors moi, je voudrais vous entendre, j'ai un banquier face à moi, on ne l'oublie pas. Est-ce que les systèmes bancaires, j'imagine votre réponse, mais est-ce que les systèmes bancaires sont solides ?
Bien sûr, ils sont solides, oui. Les systèmes bancaires sont solides.
Les auditeurs sont en train de trembler, là.
Oui, alors... Écoutez, c'est solide, bien évidemment. On l'a vu, parce qu'il y a quand même une réglementation avec la Banque Centrale Européenne qui a obligé, depuis la crise des subprimes de 2008, ne l'oublions pas, à renforcer nos fonds propres. Donc, nous avons des fonds propres extrêmement, extrêmement importants au niveau des banques. Bien évidemment, en ce qui concerne ma banque, je peux vous en parler plus que de mes concurrents, mais nous sommes filiale de la Banque Postale, filiale de la Poste, filiale de la Caisse des dépôts. C'est donc une banque privée, mais qui fait partie du dernier groupe public français. Donc il y a une solidité très importante. Et d'ailleurs, nous l'avons constaté à travers l'épargne que nous avons drainée depuis ce confinement, car bon nombre de nos clients et de prospects sont venus épargner dans notre banque, parce qu'il disait BPE, c'est solide, parce que c'est la Poste, c'est la Caisse des dépôts.
Merci Jean-Marc Ribes. Je rappelle que vous êtes le président de la BPE, la banque privée du groupe de la Banque Postale. Et vous restez avec nous parce qu'on va retrouver tout de suite Bernard Cadeau.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant d'Osez Investir en logement. Bernard, vous allez nous proposer votre mot de la semaine qui est l'argent. C'est bien ça ?
Bah oui, c'est à propos ce matin. Si je vous donne un peu d'argent, Thomas...
Plutôt à moi qu'il faut le donner.
Non, je vais d'abord proposer à Thomas. Je vous donne un petit peu d'argent. Vous me rendez la monnaie ?
Mais je rends toujours la monnaie de la pièce, Bernard. Ça, vous le savez bien.
Aïe. Oui, bien sûr, Thomas. Mais commençons par l'argent. Il vient du latin argentum et du grec argyros. Bon, il appartient à la classification des métaux à frapper. Peu ou pas oxydable à l'air, il est très tôt utilisé pour frapper la monnaie. Petit à petit, il s'est imposé dans le langage courant comme la monnaie, car il était beaucoup plus rare que le cuivre et bien moins que l'or. Il désigne aussi bien les pièces que les billets et par extension une certaine somme. À l'origine, chaque pièce d'argent était pure à 100%, mais ces temps sont révolus depuis si longtemps. Les alliages et les dosages se sont petit à petit substitués à l'équivalent métal du départ.
Une monnaie, ça sert à quoi, Bernard ?
Aristote la définissait déjà par trois fonctions. La première, c'est unité de compte pour le calcul économique et la comptabilité. La seconde, c'est la réserve de valeur. La troisième, c'est l'intermédiaire dans les échanges avec des agents économiques qui l'acceptent en règlement d'un achat, d'une dette ou d'une prestation. Cette définition ancienne est logiquement amendée par la suppression de toute référence à des matières précieuses, avec la dématérialisation progressive des supports monétaires et, plus près de nous, par l'émergence des crypto-monnaies. Mais l'émission de monnaie traditionnelle reste malgré tout le privilège des États. Retenons surtout que la caractéristique indispensable autour de la monnaie, c'est la confiance que lui portent ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et sa capacité à servir aux échanges. On devine aisément les dimensions sociales, politiques et psychologiques qui s'y rattachent. Que la monnaie soit commune ou non, d'ailleurs. Bon alors Thomas, je vous donne de l'argent, vous me rendez la monnaie ?
Bah comme d'habitude, toujours. Merci mon cher Bernard.
ImmoStim, commercialisateur en immobilier neuf, présente...
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Thomas, nous sommes en duplex avec Luigi Lanfranconi, directeur d'Edifid, promoteur dans le Calvados. Nous vous recevons ce matin pour parler de Caen.
Oui, bonjour Luigi Lanfranconi. Comment se porte le marché du neuf sur Caen et quelle est sa tendance actuelle ?
Le marché de l'agglomération caennaise, une agglomération de 270 000 habitants, est un marché dynamique. Depuis 4 ans, plus de 1000 réservations nettes annuelles avec, en 2019, 1400 réservations.
Si je souhaite faire un investissement sur votre ville, vers quel type de bien dois-je m'orienter ?
Moi, je dirais que vous avez une offre en appartement, de petits logements, effectivement, qui peuvent répondre à une certaine clientèle. Mais aussi, vous avez, compte tenu de la caractéristique du territoire avec un périurbain actif, vous avez des maisons qui sont proposées à l'investissement et qui, aujourd'hui, fonctionnent, qui sont très appréciées.
Merci Luigi Lanfranconi.
Restez avec nous, on revient dans un instant avec le Club Osez Investir et Jacques Attali, économiste et écrivain.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens. Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente...
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez Investir, 66e numéro. C'est d'ailleurs votre année de naissance, mon cher Thomas. L'hebdo de l'investissement réussi, bonjour.
La vôtre aussi, également, oui. Philippe, bonjour.
Vous allez aborder quel sujet cette semaine, Thomas ?
Eh bien, on va parler de l'innovation de la semaine, qui est un radiateur électrique Thermor avec diffuseur de parfum. On va recevoir ensuite Jean-Marc Ripp, qui est président de la BPE, la banque privée de la Banque Postale. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadeau. Et on va faire un petit tour dans le Calvados, du côté de Caen, pour l'immobilier neuf.
Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Jacques Attali, écrivain et économiste.
TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente.
Sud Radio, Osez Investir, la clé de la semaine.
Et maintenant, vous allez nous parler du radiateur connecté Thermor Équateur 4 et du diffuseur de parfum Sentis.
Oui Philippe, parce que chauffer sa maison, c'est utile, mais qu'en plus un parfum agréable flotte dans la pièce, c'est forcément mieux. Alors je vais vous parler effectivement du radiateur Thermor Équateur 4 et du diffuseur de parfum connecté sur le radiateur via sa prise USB. Ce diffuseur fonctionne avec des capsules Sentis contenant des petites billes de parfum. Vous avez ainsi le choix parmi leur collection de 25 fragrances. C'est un appareil 3 en 1, radiateur, diffuseur de parfums d'ambiance, mais également un diffuseur de musique avec une enceinte cabasse qui se rajoute sur le port USB. Le radiateur Thermor Équateur 4 est donc un appareil connecté qui a un double système chauffant, fonte et façade rayonnante. Il est intelligent car le radiateur se programme tout seul grâce à ses détecteurs intégrés. L'ensemble est pilotable de son smartphone, Philippe.
Et combien ça coûte, Thomas ?
Eh bien, ce radiateur, en fonction de sa puissance, commence à 735 €. Le diffuseur de parfum coûte 75 € et l'enceinte cabasse autour des 150 €.
Sud Radio, Osez Investir.
Notre invité cette semaine est Jean-Marc Ripp, président de la BPE, la banque privée du groupe La Banque Postale.
Oui Philippe, la banque privée BPE a été créée en 1963 et est présente sur l'ensemble du territoire national avec 78 implantations dans 70 villes. La BPE est composée de 400 collaborateurs et de 63 000 clients. Bonjour Jean-Marc Ripp.
Bonjour Thomas Binet.
Jean-Marc Ripp, quelle année nous venons de vivre ? Nous vous avions reçu au printemps dernier, lors du premier confinement, les chiffres du chômage partiel, les entreprises en difficulté étaient très préoccupants. Depuis, le deuxième confinement est passé par là. Comment analysez-vous concrètement la situation cette fin d'année ?
Le premier semestre a été extrêmement compliqué. On a vécu un vrai confinement. Une activité économique a été extrêmement réduite. Des entreprises fermées. Beaucoup de salariés en télétravail. Donc des conditions de travail un peu compliquées, il faut quand même le reconnaître. Mais je dirais qu'il y a eu quand même un peu cette sortie du premier confinement, c'est-à-dire à partir du 11 mai. Oui. Que s'est-il passé à partir du 11 mai ? On s'est aperçu que la consommation est repartie. Il y avait une soif d'envie de consommer. Oui. Hein. Faut se rappeler, on était enfermés pendant 2 mois et demi, hein, donc on ne pouvait pas sortir. Vrai. Donc en fait, la consommation est repartie. Et nous avons tous cru que c'était pratiquement terminé.
Et pour autant ?
Eh bien écoutez, l'été s'est plutôt bien passé, et puis au mois de septembre, ben, ça a été compliqué. Parce qu'au mois de septembre, on a revécu en fait un début de deuxième vague, hein, tout le monde parlait de cette deuxième vague, qui est arrivée un petit peu plus tard, hein, qui est arrivée vers la mi-octobre, voilà. Et l'activité s'est recontractée à nouveau.
Alors au niveau de l'activité, justement, vous en retirez quelles conclusions ?
Alors, je crois qu'il faut, il faut différencier en fonction des secteurs d'activité. Vous avez des secteurs qui sont réellement touchés. Je pense à, au tourisme, à l'hôtellerie, à l'aéronautique. Mais nous avons des secteurs qui fonctionnent bien, à la santé, certaines hautes technologies. Donc nous avons en fait des secteurs où nous avons pu investir et nous l'avons vu d'ailleurs sur les marchés boursiers.
Alors, comment voyez-vous évoluer les chocs d'offres du premier semestre par rapport à une production stoppée ou en partie stoppée ? Le choc de la demande par une impossibilité d'acheter, vous l'évoquiez un instant, donc de consommer, comment ça se passe justement tout ça ?
Alors écoutez, bah, comment ça se passe ? En réalité, il y a beaucoup d'épargne. Il y a beaucoup d'épargne parce que quand vous ne pouvez pas consommer, bah, vous épargnez. Alors, beaucoup de salariés ont pu épargner, en fait, puisqu'ils ne pouvaient pas consommer. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Et nous, en tant que banquiers, nous le voyons actuellement donc, chez BPE, hein, la Banque Privée de la Banque Postale, que j'ai la chance de présider. Si vous voulez, on n'a jamais eu un taux d'épargne mais aussi élevé. D'accord. C'est-à-dire que, alors, pour moi, ce taux d'épargne, en fait, cette épargne est un réservoir de consommation. C'est-à-dire que quand nous allons sortir de cette crise, alors, bien malin aujourd'hui pour dire oui, quand, clair. Bien évidemment, mais il y aura cette envie de consommer.
Vous voulez dire par là qu'à partir du moment où on va sortir de ces vagues, alors on ne peut pas savoir deuxième ou troisième, mais vous pensez que la consommation va repartir très fort, comme d'ailleurs après le 11 mai ?
C'est ça votre analyse ? J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Alors, elle va repartir, mais tout va dépendre des secteurs d'activité. Elle va repartir, par exemple, dans tout ce qui est tourisme. Les Français, par exemple, vont vouloir partir à l'étranger, vont vouloir voyager. La restauration, dès que les restaurants vont pouvoir ouvrir. En revanche, ça va être beaucoup plus compliqué pour des secteurs. Bon, l'aéronautique va prendre quand même pas mal de temps avant de redémarrer, bien évidemment. Mais il va y avoir des secteurs, par exemple, le prêt-à-porter va être plus compliqué. Parce qu'on risque d'avoir un changement de comportement aussi des ménages.
Alors, vous parliez de l'épargne de précaution, c'est de l'épargne de précaution que vous évoquez.
Alors, c'est pas que de l'épargne de précaution. D'accord. Vous avez une partie des Français qui a besoin d'épargner. Et là, effectivement, c'est de l'épargne de précaution parce que on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Peut-être que leurs entreprises vont fermer, vont licencier. Donc là, c'est vraiment la peur. C'est une épargne presque de peur. Et puis, vous avez une épargne qui est prête à être consommée parce que des salariés, aujourd'hui, ont leur emploi, n'ont pas de risque de perdre leur emploi demain, sont payés tous les mois et donc épargnent, mais parce qu'ils sont obligés d'épargner.
Alors, comment on fait pour épargner aujourd'hui intelligemment ?
Alors, écoutez, je crois que j'ai envie de dire un peu comme avant. C'est la diversification de l'épargne. C'est-à-dire que la diversification de l'épargne, ça va être de dire, bah, écoutez, on a vu, il y a eu un regain du marché des actions. Nous avons beaucoup d'épargne bancaire. Hein. Alors l'épargne bancaire, je précise pour les auditeurs, c'est tout ce qui est sur les comptes courants, les comptes chèques, et puis l'épargne sur les livrets. Voilà, qui rapporte rien, hein, presque rien sur l'épargne livrée et rien du tout sur les comptes chèques. Et ça, c'est un réservoir puissant pour réallouer ces actifs vers des actifs financiers. Nous avons eu également le marché des actions, avec une grosse volatilité sur le marché des actions, mais les Français sont revenus quand même, on l'a vu ces derniers mois, sur le marché des actions. Donc des investissements, ils ont profité des points d'entrée et des points de sortie par rapport au niveau du CAC 40. Et puis, il y a l'immobilier. Il y a eu beaucoup d'investissements dans l'immobilier. Alors, dans l'immobilier, je vous rappelle, j'étais sur votre antenne en avril dernier. Hein. À l'époque, on se posait la question, les SCPI, et beaucoup de Cassandres d'ailleurs pensaient que les SCPI allaient s'effondrer. Et pas du tout. Les SCPI diversifiés ont plutôt bien tenu aujourd'hui, même si on peut s'attendre à ce que des taux de rendement des SCPI passent de 4,5 à 5 à 2 ou 2,5, c'est déjà beaucoup par rapport à un livret A qui rapporte 0,5.
Alors moi, je voudrais vous entendre, j'ai un banquier face à moi, hein, on ne l'oublie pas. Est-ce que les systèmes bancaires, j'imagine votre réponse, hein, mais est-ce que les systèmes bancaires sont solides ?
Bien sûr, ils sont solides. Oui, les systèmes bancaires sont solides.
Les auditeurs sont en train de trembler, là.
Oui, alors... Écoutez, c'est solide, bien évidemment. Ouais. On l'a vu, parce qu'il y a quand même une réglementation avec la Banque Centrale Européenne qui a obligé, depuis la crise des subprimes de 2008, ne l'oublions pas, à renforcer nos fonds propres. Donc, nous avons des fonds propres extrêmement, extrêmement importants au niveau des banques. Bien évidemment, en ce qui concerne ma banque, je peux vous en parler plus que de mes concurrents, mais nous sommes filiale de la Banque Postale, filiale de la Poste, filiale de la Caisse des dépôts. C'est donc une banque privée, mais qui fait partie du dernier groupe public français. Donc il y a une solidité très importante. Et d'ailleurs, nous l'avons constaté à travers l'épargne que nous avons drainée depuis ce confinement, car bon nombre de nos clients et de prospects sont venus épargner dans notre banque, parce qu'il disait BPE, c'est solide, parce que c'est la Poste, c'est la Caisse des dépôts.
Merci Jean-Marc Ribes. Je rappelle que vous êtes le président de la BPE, la banque privée du groupe de la Banque Postale. Et vous restez avec nous, parce qu'on va retrouver tout de suite Bernard Cadeau.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant d'Osez Investir en logement. Bernard, vous allez nous proposer votre mot de la semaine, qui est l'argent. C'est bien ça ?
Bah oui, c'est à propos ce matin. Hein. Si je vous donne un peu d'argent, Thomas...
Plutôt à moi qu'il faut le donner. Hein.
Non, je vais d'abord proposer à Thomas. Je vous donne un petit peu d'argent. Vous me rendez la monnaie ?
Mais je rends toujours la monnaie de la pièce, Bernard. Ça, vous le savez bien.
Aïe, aïe, aïe. Oui, bien sûr, Thomas. Mais commençons par l'argent. Il vient du latin argentum et du grec argyros. Bon, il appartient à la classification des métaux à frapper. Peu ou pas oxydable à l'air, il est très tôt utilisé pour frapper la monnaie. Petit à petit, il s'est imposé dans le langage courant comme la monnaie, car il était beaucoup plus rare que le cuivre et bien moins que l'or. Il désigne aussi bien les pièces que les billets et par extension une certaine somme. À l'origine, chaque pièce d'argent était pure à 100%, mais ces temps sont révolus depuis si longtemps. Les alliages et les dosages se sont petit à petit substitués à l'équivalent métal du départ.
Une monnaie, ça sert à quoi, Bernard ?
Aristote la définissait déjà par trois fonctions. La première, c'est unité de compte pour le calcul économique et la comptabilité. La seconde, c'est la réserve de valeur. La troisième, c'est l'intermédiaire dans les échanges avec des agents économiques qui l'acceptent en règlement d'un achat, d'une dette ou d'une prestation. Cette définition ancienne est logiquement amendée par la suppression de toute référence à des matières précieuses, avec la dématérialisation progressive des supports monétaires et, plus près de nous, par l'émergence des crypto-monnaies. Mais l'émission de monnaie traditionnelle reste malgré tout le privilège des États. Retenons surtout que la caractéristique indispensable autour de la monnaie, c'est la confiance que lui portent ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et sa capacité à servir aux échanges. On devine aisément les dimensions sociales, politiques et psychologiques qui s'y rattachent. Que la monnaie soit commune ou non, d'ailleurs. Bon alors Thomas, je vous donne de l'argent, vous me rendez la monnaie ?
Bah comme d'habitude, toujours. Merci mon cher Bernard.
ImoStim, commercialisateur en immobilier neuf, présente...
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Thomas, nous sommes en duplex avec Luigi Lanfranconi, directeur d'Edifid, promoteur dans le Calvados. Nous vous recevons ce matin pour parler de Caen.
Oui, bonjour Luigi Lanfranconi. Comment se porte le marché du neuf sur Caen et quelle est sa tendance actuelle ?
Le marché de l'agglomération caennaise, une agglomération de 270 000 habitants, est un marché dynamique. Depuis 4 ans, plus de 1000 réservations nettes annuelles avec, en 2019, 1400 réservations.
Si je souhaite faire un investissement sur votre ville, vers quel type de bien dois-je m'orienter ?
Moi, je dirais que vous avez une offre en appartement, de petits logements, effectivement, qui peuvent répondre à une certaine clientèle. Mais aussi, vous avez, compte tenu de la caractéristique du territoire avec un périurbain actif, vous avez des maisons qui sont proposées à l'investissement et qui aujourd'hui fonctionnent, qui sont très appréciées.
Merci Luigi Lanfranconi.
Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Osez Investir et Jacques Attali, économiste et écrivain.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens. Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore, présente.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous vous retrouvons après cette pause avec Jacques Attali. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu.
Allez, oh ma douce, j'entends.
Oui, Philippe, comment accueillir Jacques Attali avec une autre chanson que celle qu'il a écrite pour l'immense artiste qu'était Barbara et qui s'intitule « Colline ». Comment également présenter Jacques Attali que tout le monde connaît déjà ? Ce n'est effectivement pas le portrait le plus aisé que j'ai eu à imaginer depuis le début de notre saison. Que l'on vous apprécie ou pas, que l'on vous écoute ou pas, que vous inquiétiez ou non, une chose est sûre, vous ne laissez personne sans avis. Mais quel plaisir de vous recevoir, Jacques Attali, vous qui êtes né un 1er novembre, le jour de tous les saints, donc celui d'un jour où souvent l'on s'en va, emporté par un vent mauvais. Certains vous disent Cassandre, en raison de vos prédictions, tellement justes mais tellement dérangeantes car elles sont rarement heureuses et se teintent en 60 nuances de gris. Que vous avez raison de dire que quiconque ne prévoit pas le pire est certain de voir le pire lui arriver, car oui, le malheur n'attend jamais. Et pour autant, quelle leçon de vie vous nous donnez ? Si attaché au monde d'avant pour en décrypter les origines et tellement installé dans le monde d'après pour en éviter les turpitudes. Vous qui nous rappelez à l'envi que l'on vit qu'une fois, vous vous rêviez plusieurs vies en même temps. Au-delà d'un cursus universitaire exceptionnel, vous conjuguez votre vie comme le chef d'orchestre que vous êtes devenu il y a 15 ans. En jouant de tous les instruments, conseiller spécial du président François Mitterrand, banquier, journaliste, économiste, compositeur, auteur avec plus de 80 livres, président de la Fondation Positive Planète et de tant d'autres vies encore, écrites ou restant à écrire. L'homme que vous êtes et qui murmure à l'oreille des présidents et qui dit de lui qu'il n'a aucun don mais qui travaille énormément, cherche comme chacun d'entre nous probablement à devenir soi. Alors nous sommes très honorés de vous recevoir ce dimanche matin dans Oser Investir et je souhaitais terminer votre portrait avec cette phrase de Saint-Exupéry que je vous rattache eu égard à votre parcours de vie. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour monsieur, merci de ce portrait. C'est tellement gentil que je ne peux que vous décevoir maintenant.
Jacques Attali, parmi tous les métiers que vous avez exercés, tous ceux que vous avez eu l'occasion de découvrir, comme je viens de le préciser dans le portrait, lequel a été le plus important, le plus gratifiant pour vous ?
Le plus important et le plus gratifiant, ce n'est pas la même chose. Le plus important, c'est sans doute d'avoir été le collaborateur le plus direct pendant 10 ans d'un président de la République avec qui chaque instant passé faisait l'histoire. Le plus gratifiant, c'est certainement la direction d'orchestre ou l'écriture de romans, qui sont les deux passions égoïstes que je revendique, même si j'espère donner du plaisir en dirigeant l'orchestre ou en écrivant des livres.
Jacques Attali, sommes-nous à la fin du capitalisme basé sur le modèle d'une croissance infinie ?
Ça devrait. Si on continue, on ne peut jamais dire qu'un autobus a fini sa course quand il fonce dans le mur. Il peut finir sa course dans le mur ou s'arrêter avant et se détourner. Nous sommes certainement dans un autobus qui fonce dans le mur. Et tout le problème, c'est d'arrêter avant. Alors je fais partie de ceux qui essayent d'alerter, d'allumer des phares, de voir un peu dans la nuit, de dire qu'il y a une voie, parce que je ne suis pas pessimiste. Comme vous l'avez dit, je cherche à voir les problèmes pour les éviter. Et je crois qu'on peut l'éviter. Je crois qu'on a tous les moyens, encore aujourd'hui, d'avoir une société altruiste, positive, créatrice de richesses pour tous, démocratique et libre, c'est encore possible. Ça exige d'immenses efforts d'appropriation collective d'un projet d'une société altruiste et positive. Est-ce qu'on y arrivera à temps ? Est-ce que la crise actuelle va nous y aider ? Je ne sais pas.
Vous prenez la décroissance. C'est probablement une nécessité. Vous nous le rappelez souvent.
Non, je ne prône pas la décroissance.
Vous ne prenez pas la décroissance.
Non, j'explique au contraire que la décroissance qu'on voit actuellement, est une catastrophe, est une faute de raisonnement. Parce que si c'est décroître avec le niveau de production, la nature actuelle de la production, on continue avec la production actuelle à produire tout ce qu'il ne faut pas. Donc, ce qu'il ne faut, si c'était la production actuelle qui était mauvaise, il ne faudrait pas une décroissance, mais il faudrait une production nulle, d'un point de vue logique, ce qui évidemment est absurde. Donc il faut non pas décroître, mais changer la nature de la production, ce qui sans doute entraînera la nécessité d'une croissance.
Alors vous dites qu'il faut réorienter l'économie vers la santé, je vous ai écouté, je vous ai regardé, vers l'alimentation, l'éducation, l'hygiène, la recherche entre autres, vous avez même rajouté d'ailleurs dans votre liste la distribution, les infrastructures, la sécurité numérique, bref, comment gère-t-on tout cela du coup dans le temps présent ?
Et les médias, qui pour moi font partie de ce que j'appelle l'économie de la vie. Parce que la démocratie fait partie de l'économie de la vie. Comment gère-t-on tout ça ? Eh bien, en ayant une vision politique individuelle et collective qui considère tous ces secteurs comme des priorités, qui aujourd'hui ne représentent que 50 à 60% du PIB, dans lequel il faudrait que les investisseurs, les fonds d'investissement, les banques considèrent comme priorité d'investir dans ces secteurs, parmi lesquels je mets le logement durable, l'eau propre, les énergies renouvelables, etc. Or, aujourd'hui, ça ne représente qu'une part modeste de l'ensemble, et ça voudrait dire d'investir moins dans d'autres secteurs. Nous avons toutes les banques, tous les fonds d'investissement, toutes les incitations fiscales nécessaires pour le faire, mais on ne fait pas assez.
Jacques Attali, j'avais lu un de vos livres il y a quelques années qui s'appelait « De mémoire, une brève histoire de l'avenir ». Et vous disiez que l'avenir appartenait, c'était il y a une dizaine d'années, appartenait aux nomades. L'avenir appartenait aux nomades. Est-ce qu'avec la crise du Covid, c'est la société des anywhere qui va remplacer la société des somewhere?
J'avais expliqué dans ce livre que nous étions nomades depuis 300 000 ans, que nous avons été sédentaires depuis 10 000 ans, et que cette parenthèse sédentaire était en train de se former, soit se fermer, soit pour des gens qui pourraient être nomades riches, soit pour le malheur de tous ceux qui ont été des nomades pauvres, et qui sont aujourd'hui des nomades pauvres, et dont on voit qu'ils sont tentés de bouger, de changer, de migrer. Et au milieu, il y a une grande catégorie qui est la grande classe moyenne, qui est un nomade virtuel, qui essaye de rejoindre la catégorie des nomades riches, ou de la terreur de tomber dans la catégorie des nomades pauvres. Donc, il y a des nomades virtuels qui font avec les nouvelles technologies l'essentiel de la grande classe moyenne, qui sont entourés des deux catégories de nomades réels, extrêmement riches et l'autre extrêmement pauvre.
Jacques Attali, on vous reçoit dans Osez Investir. Comment voyez-vous la préservation de l'épargne des Français dans ces temps incertains ?
L'épargne des Français est protégée aussi longtemps que l'inflation n'est pas là. Et d'autre part, mon rôle n'a jamais été de donner des conseils de placement, et je me garderai bien de le faire. Mais je crois qu'aussi longtemps qu'on met son argent dans une banque sûre, et les banques françaises le sont, aussi longtemps qu'on n'investit pas dans des choses par nature trop spéculatives, aussi longtemps qu'on ne prend pas de dettes excessives qui mettent en risque notre capital, l'épargne est protégée. Elle ne le sera plus le jour où l'inflation redémarrerait et où les taux d'intérêt exploseraient, ce qui est possible. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'inquiétude sur l'épargne des Français. J'ai de l'inquiétude sur l'usage de l'épargne des Français, qui, à mon avis, n'est pas assez orienté vers les secteurs de l'économie de la vie. Donc, pour moi, c'est pas l'épargne qui est en cause, c'est son usage qui n'est pas assez tourné vers les secteurs que vous avez évoqués tout à l'heure.
Est-ce que le monde de demain ne va pas devenir plus sécuritaire, remettant en cause les libertés fondamentales ?
Si nous approprions le projet de société dont je parle, nous pouvons très bien concilier démocratie et sécurité. L'exemple sud-coréen montre que seule une démocratie a réussi jusqu'à présent à faire face efficacement à la pandémie, la démocratie sud-coréenne, alors que la dictature chinoise est une catastrophe. Elle a très très mal géré cette pandémie, contrairement à ce qu'on raconte, puisqu'elle a menti sur tout, y compris sur les causes, et elle s'est menti à elle-même en faisant peur à tout le monde, et en particulier aux citoyens chinois. Donc, la démocratie peut tenir à condition qu'on mette des règles très précises, qu'on démantèle les GAFA. Il va falloir les démanteler, c'est dans l'intérêt du gouvernement américain comme des gouvernements européens. Et les mesures proposées par la Commission européenne sont la moindre des choses, mais il faudra aller beaucoup plus loin, et qu'on mette en permanence en place des outils de protection des citoyens. Et aussi, et je crois que c'est très important, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les médias jouent un rôle très important, il faut à tout prix protéger la vérité. Le rôle des journalistes doit être de dire la vérité, de contredire les fausses nouvelles, de lutter contre les mensonges. Et c'est comme ça qu'on aura une société de démocratie et non pas une société totalitaire.
Jacques Attali, on a proposé à Jean-Marc Ribe, qui était notre premier invité, de rester avec nous dans cette partie, le club Osez Investir. Et je voulais le faire réagir sur vos propos. Que vous inspirent les propos de Jacques Attali, Jean-Marc Ribe ?
Je trouve que les propos de Jacques Attali, en fait, si on le prend du bon côté des choses, sont très positifs. Parce qu'on parle d'investissement. On parle d'investissement dans des secteurs rentables, dans des secteurs qui vont créer des emplois, en fait. Et ce n'est pas du tout défaitiste, au fond. C'est une grande leçon de vie pour dire... On peut sauver la planète, on peut investir, il y a des emplois à créer et on peut lutter contre la pauvreté. Donc je dirais que c'est toute l'économie positive que nous nous aimons bien.
Alors, comme le veut la tradition, vous avez retenu, Jacques Attali, donc, pour cette émission, une musique pour terminer notre rencontre de ce matin.
Oui, il s'agit de Positive Vibration de Bob Marley, datant de 1976.
Alors, je ne vous cache pas, Jacques Attali, quand vous m'avez proposé cette chanson, que j'ai été surpris.
Je confirme.
Voilà, on a été tous surpris sur le plateau d'Oser Investir, parce que je m'attendais au chef d'orchestre que vous êtes depuis donc 15 ans, que vous nous proposiez une musique classique de vos rêves. Et pourtant, c'est Bob Marley.
Oui, mais j'adore toutes les formes de musique. Et puis, avec Jean-Marc, on travaille beaucoup sur l'économie positive, c'est-à-dire l'économie au service des générations futures. Et donc, j'ai voulu faire un clin d'œil à l'économie positive, au fait de s'intéresser d'une façon optimiste et positive à l'avenir. Et il n'y a rien de mieux que cette magnifique chanson de Bob.
Eh bien, c'est réussi, Jacques Attali. Merci d'être passé du côté des investir ce dimanche matin.
Et bon, cher Thomas, j'espère la semaine prochaine vous voir avec des dreadlocks à la Bob Marley.
C'était
le 66e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou en téléchargeant l'ensemble de nos dispositifs sur Sud Radio et aussi sur Oser Investir. Eh bien, merci de votre fidélité. Bon dimanche et à la semaine prochaine.
Sud Radio, le grand matin week-end. Oser Investir, le club. 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore. Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore. Présente
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, le club. 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous vous retrouvons après cette pause avec Jacques Attali. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu.
Allez, oh ma douce, j'entends ton rire dans mes rêves.
Oui, Philippe, comment accueillir Jacques Attali avec une autre chanson que celle qu'il a écrite pour l'immense artiste qui était Barbara et qui s'intitule Colline. Comment également présenter Jacques Attali, que tout le monde connaît déjà? Ce n'est effectivement pas le portrait le plus aisé que j'ai eu à imaginer depuis le début de notre saison. Que l'on vous apprécie ou pas, que l'on vous écoute ou pas, que vous inquiétiez ou non, une chose est sûre, vous ne laissez personne sans avis. Mais quel plaisir de vous recevoir, Jacques Attali, vous qui êtes né un 1er novembre, le jour de tous les saints, donc celui d'un jour où souvent l'on s'en va, emporté par un vent mauvais. Certains vous disent Cassandre, en raison de vos prédictions, tellement justes mais tellement dérangeantes car elles sont rarement heureuses et se teintent en 60 nuances de gris. Que vous avez raison de dire que quiconque ne prévoit pas le pire est certain de voir le pire lui arriver, car oui, le malheur n'attend jamais. Et pour autant, quelle leçon de vie vous nous donnez? Si attaché au monde d'avant pour en décrypter les origines et tellement installé dans le monde d'après pour en éviter les turpitudes. Vous qui nous rappelez à l'envie que l'on vit qu'une fois, vous vous rêviez plusieurs vies en même temps. Au-delà d'un cursus universitaire exceptionnel, vous conjuguez votre vie comme le chef d'orchestre que vous êtes devenu il y a 15 ans. En jouant de tous les instruments, conseiller spécial du président François Mitterrand, banquier, journaliste, économiste, compositeur, auteur avec plus de 80 livres, président de la Fondation Positive Planète et de tant d'autres vies encore, écrites ou restant à écrire. L'homme que vous êtes et qui murmure à l'oreille des présidents et qui dit de lui qu'il n'a aucun don mais qui travaille énormément, cherche comme chacun d'entre nous probablement à devenir soi. Alors nous sommes très honorés de vous recevoir ce dimanche matin dans Oser Investir et je souhaitais terminer votre portrait avec cette phrase de Saint-Exupéry que je vous rattache eu égard à votre parcours de vie. Nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour monsieur, merci de ce portrait. C'est tellement gentil que je ne peux que décevoir maintenant.
Jacques Attali, parmi tous les métiers que vous avez exercés, tous ceux que vous avez eu l'occasion de découvrir, comme je viens de le préciser dans le portrait, lequel a été le plus important, le plus gratifiant pour vous?
Le plus important et le plus gratifiant, ce n'est pas la même chose. Le plus important, c'est sans doute d'avoir été le collaborateur le plus direct pendant 10 ans d'un président de la République avec qui chaque instant passé faisait l'histoire. Le plus gratifiant, c'est certainement la direction d'orchestre ou l'écriture de romans, qui sont les deux passions égoïstes que je revendique, même si j'espère donner du plaisir en dirigeant l'orchestre ou en écrivant des livres.
Jacques Attali, sommes-nous à la fin du capitalisme basé sur le modèle d'une croissance infinie?
Ça devrait. Si on continue, on ne peut jamais dire qu'un autobus a fini sa course quand il fonce dans le mur. Mmh. Il peut finir sa course dans le mur ou s'arrêter avant et se détourner. Nous sommes certainement dans un autobus qui fonce dans le mur. Et tout le problème, c'est d'arrêter avant. Alors que je fais partie de ceux qui essayent d'alerter, d'allumer des phares, de voir un peu dans la nuit, de dire qu'il y a une voie, parce que je ne suis pas pessimiste. Comme vous l'avez dit, je cherche à voir les problèmes pour les éviter. Et je crois qu'on peut l'éviter. Je crois qu'on a tous les moyens, encore aujourd'hui, d'avoir une société altruiste, positive, créatrice de richesses pour tous, démocratique et libre. C'est encore possible. Ça exige d'immenses efforts d'appropriation collective d'un projet d'une société altruiste et positive. Est-ce qu'on y arrivera à temps? Est-ce que la crise actuelle va nous y aider? Je ne sais pas.
Vous prenez la décroissance. C'est probablement une nécessité. Vous nous le rappelez souvent.
Non, je ne prône pas la décroissance.
Vous ne prenez pas la décroissance.
Non, j'explique au contraire que la décroissance est une, qu'on voit actuellement, est une catastrophe, est une faute de raisonnement. Parce que si c'est décroître avec le niveau de production, la nature actuelle de la production, on continue avec la production actuelle à produire tout ce qu'il ne faut pas. Mmh. Donc, ce qu'il faut, si c'était la production actuelle qui était mauvaise, il ne faudrait pas une décroissance, mais il faudrait une production nulle, d'un point de vue logique. Ce qui, évidemment, est absurde. Donc, il faut non pas décroître, mais changer la nature de la production, ce qui, sans doute, entraînera la nécessité d'une croissance.
Alors, vous dites qu'il faut réorienter l'économie vers la santé. Je vous ai écouté, je vous ai regardé, vers l'alimentation, l'éducation, l'hygiène, la recherche, entre autres. Vous avez même rajouté, d'ailleurs, dans votre liste, la distribution, les infrastructures, la sécurité numérique. Bref, comment gère-t-on tout cela, du coup, dans le temps présent?
Et les médias, qui, pour moi, font partie de ce que j'appelle l'économie de la vie. Parce que la démocratie fait partie de l'économie de la vie. Comment gère-t-on tout ça? Eh bien, en ayant une vision politique individuelle et collective qui considère tous ces secteurs comme des priorités, qui aujourd'hui ne représentent que 50 à 60% du PIB, dans lequel il faudrait que les investisseurs, les fonds d'investissement, les banques considèrent comme priorité d'investir dans ces secteurs, parmi lesquels je mets le logement durable, l'eau propre, les énergies renouvelables, etc. Or, aujourd'hui, ça ne représente qu'une part modeste de l'ensemble et ça voudrait dire d'investir moins dans d'autres secteurs. Nous avons toutes les banques, tous les fonds d'investissement, toutes les incitations fiscales nécessaires pour le faire, mais on ne fait pas assez.
Jacques Attali, j'avais lu un de vos livres il y a quelques années qui s'appelait de mémoire « Une brève histoire de l'avenir » et vous disiez que l'avenir appartenait, c'était il y a une dizaine d'années, appartenait aux nomades. L'avenir appartenait aux nomades. Est-ce qu'avec la crise du Covid, c'est la société des Anywhere qui va remplacer la société des Somewhere?
J'avais expliqué dans ce livre que nous étions nomades depuis 300 000 ans, que nous avons été sédentaires depuis 10 000 ans et que cette parenthèse sédentaire était en train de se former, soit se fermer, soit pour des gens qui pourraient être nomades riches, soit pour le malheur de tous ceux qui ont été des nomades pauvres et qui sont aujourd'hui des nomades pauvres et dont on voit qu'ils sont tenter de bouger, de changer, de migrer. Et au milieu, il y a une grande catégorie qui est la grande classe moyenne, qui est un nomade virtuel, qui essaye de rejoindre la catégorie des nomades riches ou de la terreur de tomber dans la catégorie des nomades pauvres. Donc, il y a des nomades virtuels qui font avec les nouvelles technologies l'essentiel de la grande classe moyenne, qui sont entourés des deux catégories de nomades réels, extrêmement riches et l'autre extrêmement pauvre.
Jacques Attali, on vous reçoit dans Osez Investir. Comment voyez-vous la préservation de l'épargne des Français dans ces temps incertains?
L'épargne des Français est protégée aussi longtemps que l'inflation n'est pas là. Et d'autre part, mon rôle n'a jamais été de donner des conseils de placement et je me garderai bien de le faire. Mais je crois qu'aussi longtemps qu'on met son argent dans une banque sûre, et les banques françaises le sont, aussi longtemps qu'on n'investit pas dans des choses par nature trop spéculative, aussi longtemps qu'on ne prend pas de dettes excessives qui mettent en risque notre capital, l'épargne est protégée. Elle ne le sera plus le jour où l'inflation redémarrerait et où les taux d'intérêt exploseraient, ce qui est possible. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'inquiétude sur l'épargne des Français. J'ai de l'inquiétude sur l'usage de l'épargne des Français, qui, à mon avis, n'est pas assez orienté vers les secteurs de l'économie de la vie, Donc pour moi, c'est pas l'épargne qui est en cause, c'est son usage qui n'est pas assez tourné vers les secteurs que vous avez évoqués tout à l'heure.
Est-ce que le monde de demain ne va pas devenir plus sécuritaire, remettant en cause les libertés fondamentales ?
Si nous approprions le projet de société dont je parle, nous pouvons très bien concilier démocratie et sécurité. L'exemple sud-coréen montre que seule une démocratie a réussi jusqu'à présent à faire face efficacement à la pandémie, la démocratie sud-coréenne, alors que la dictature chinoise est une catastrophe. Elle a très très mal géré cette pandémie, contrairement à ce qu'on raconte, puisqu'elle a menti sur tout, y compris sur les causes, et elle s'est menti à elle-même en faisant peur à tout le monde, et en particulier aux citoyens chinois. Donc, la démocratie peut tenir à condition qu'on mette des règles très précises, qu'on démantèle les GAFA. Il va falloir les démanteler, c'est dans l'intérêt du gouvernement américain comme des gouvernements européens. Et les mesures proposées par la Commission européenne sont la moindre des choses, mais il faudra aller beaucoup plus loin, et qu'on mette en permanence en place des outils de protection des citoyens, et aussi, et je crois que c'est très important, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les médias jouent un rôle très important, il faut à tout prix protéger la vérité. Le rôle des journalistes doit être de dire la vérité, de contredire les fausses nouvelles, de lutter contre les mensonges, et c'est comme ça qu'on aura une société de démocratie et non pas une société totalitaire.
Jacques Attali, on a proposé à Jean-Marc Ribes, qui était notre premier invité, de rester avec nous dans cette partie, le club Oser Investir, et je voulais le faire réagir sur vos propos. Que vous inspirent les propos de Jacques Attali, Jean-Marc Ribes ?
Je trouve que les propos de Jacques Attali, en fait, si on le prend du bon côté des choses, sont très positifs. Parce qu'on parle d'investissement. On parle d'investissement dans des secteurs rentables, dans des secteurs qui vont créer des emplois, en fait. Et ce n'est pas du tout défaitiste, au fond. C'est une grande leçon de vie pour dire... on peut sauver la planète, on peut investir, il y a des emplois à créer et on peut lutter contre la pauvreté. Donc je dirais que c'est toute l'économie positive que nous aimons bien.
Alors comme le veut la tradition, vous avez retenu, Jacques Attali, donc, pour cette émission, une musique pour terminer notre rencontre de ce matin.
Oui, il s'agit de Positive Vibration de Bob Marley, datant de 1976.
Alors, je ne vous cache pas, Jacques Attali, quand vous m'avez proposé cette chanson, que j'ai été surpris.
Je confirme.
Voilà, on a été tous surpris sur le plateau d'Oser Investir, parce que je m'attendais, au chef d'orchestre que vous êtes depuis donc 15 ans, que vous nous proposiez une musique classique de vos rêves. Et pourtant, c'est Bob Marley.
Oui, mais j'adore toutes les formes de musique. Et puis, avec Jean-Marc, on travaille beaucoup sur l'économie positive, c'est-à-dire l'économie au service des générations futures. Et donc, j'ai voulu faire un clin d'œil à l'économie positive, au fait de s'intéresser d'une façon optimiste et positive à l'avenir. Et il n'y a rien de mieux que cette magnifique chanson de Bob.
Eh bien, c'est réussi, Jacques Attali. Merci d'être passé du côté des investir ce dimanche matin.
Et bon, cher Thomas, j'espère la semaine prochaine vous voir avec des dreadlocks à la Bob Marley.
Eh bien, écoutez,
c'était le 66e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou en téléchargeant l'ensemble de nos dispositifs sur Sud Radio et aussi sur Oser Investir. Eh bien, merci de votre fidélité. Bon dimanche et à la semaine prochaine.
Sud Radio, le grand matin week-end. Oser Investir, le club. 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore.